Wow, c'est un épisode qui m'a chamboulé parce qu'on a reçu non seulement un athlète qui a l'un des plus grands palmarès du trail français, mais aussi parce qu'il a eu une carrière de 20 ans dans l'armée et plus de 12 ans en opération sur le terrain et notamment dans des zones de guerre. En tant que commando parachutiste et aujourd'hui caporal-chef, il va nous raconter des anecdotes très pointues sur sa vie à l'armée.
J'ai fait des interventions sur des zones hostiles. On se faisait bombarder tous les jours. J'ai des copains même là que j'ai vu partir, perdre une jambe, exploser sur une mine.
C'était ultra pertinent parce qu'on a pu aussi voir des parallèles entre le monde du sport de haut niveau et le monde de l'armée.
Voilà les conditions de froid, de pluie, d'humidité, manque de nourriture, donc beaucoup de marches de nuit, on ne dort pas beaucoup, donc des fois des situations qu'on rencontre sur des ultras. Et il m'avait fait ce qu'on appelle dans notre boulot, c'est le top, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. On l'utilise beaucoup en opérationnel pour les pilotes de chasse.
Et on a vu, avec un petit peu plus de fantaisie et de légèreté, quelques routines surprenantes de notre athlète du jour.
Les trois quarts des veilles de course, je passe à une pizzeria et je me prends une pizza 4 fromages.
Je vous présente donc Sylvain Court, qui a l'un des plus beaux palmarès du trail français. En effet, il a été deux fois champion de France, une fois champion du monde en 2015 et champion du monde par équipe deux fois. Et c'est vraiment un passionné de performance, donc on va se régaler pour cet épisode aussi riche que enrichissant parce que Sylvain a vraiment une vision de la vie très différente de ce qu'on peut connaître, notamment à cause de ses expériences qui ont été très douloureuses, probablement pour lui. Il a vécu des choses absolument horribles et hors normes. Et croyez-moi, on a essayé de terminer sur une touche autour du bonheur, parce que quand on a vécu la mort de près, on a aussi des messages très positifs à délivrer. Je remercie très chaleureusement Wise, qui est le sponsor de Sylvain, qui est une marque française et qui fait des produits très qualitatifs pour l'ultra et aussi fabriqués en Europe avec une grande mission d'éco-responsabilité dans les produits. Je suis allé les rencontrer dans leurs locaux à Annecy et j'ai vu à quel point cette équipe est passionnée et fait du travail de qualité. Ils ont notamment sorti un petit sac de trail dont je suis vraiment fan. Il est hyper bien pensé, il y a même deux brevets pour le rechargement des flasques. C'est un bijou technologique. Installez-vous confortablement pour cet épisode qui va commencer. On écoute Sylvain Court et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast. C'est vraiment ce qui nous encourage le plus, ce qui nous motive et aussi ce qui nous permet de convaincre des athlètes au parcours encore plus inspirant de venir participer et témoigner sur le podcast. Très bon épisode. Eh bien, salut Sylvain. Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne ? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas ? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah ça va très bien.
Tu pourrais décrire peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas la vidéo et qui nous écoutent en podcast, peut-être sur un sentier ou peut-être en train de faire leur sortie vélo, où est-ce qu'on est aujourd'hui?
Bah aujourd'hui on est donc sur Annecy, au siège même de Wise Ultra Running, donc mon nouveau partenaire cette année.
Ok, on va parler un petit peu matos parce que je sais qu'ils en font bien et on va parler un petit peu de la rencontre peut-être avec Guillaume que j'apprécie beaucoup. Bah si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos sur YouTube ou sur Instagram. On a fait un petit décor dans quelques minutes. Je suis trop content d'être là aujourd'hui, Sylvain, parce que bah tu vois, ça fait plus de 300 interviews que je fais. J'ai eu quand même beaucoup de coureurs d'ultra et c'est vrai que ton nom revient souvent quand je demande des recommandations aux autres athlètes. On me dit souvent, bah ouais, va voir Sylvain, déjà il est là depuis longtemps, il connaît bien le circuit, il a fait plein de courses différentes sur plein de formats différents et on m'a dit beaucoup de bien de toi, alors, et beaucoup de sagesse, donc j'étais content d'être là aujourd'hui.
C'est gentil.
La toute première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, en fait, mon premier grand souvenir de sport, on va dire que c'est pas forcément donc dans le milieu du trail que je l'ai eu, c'est dans le milieu du VTT. Tout gamin, ado, en fait, c'était un de mes premiers sports que je faisais à bon niveau. Et notamment, c'était les championnats de France de VTT cross-country à l'époque qui se déroulaient à Métabier dans le Doubs. Et sur cette course-là, donc ça a été un immense souvenir parce que bon, j'avais pas pu participer à la Coupe de France tout au long de la saison, donc j'étais parti dernière ligne parce que la Coupe de France justement permettait si on faisait des étapes d'être classé et suivant le classement en fait sur la Coupe de France, on avait notre grille de départ en fait sur les championnats de France qui était plus ou moins bien, c'est-à-dire si on faisait on était 30e au général de la Coupe de France, on partait 3e ligne sur les championnats de France. Et moi, ce jour-là, donc j'avais pas participé à la Coupe de France, donc j'étais parti dernière ligne. Cette course-là, y avait Julien Absalon, qu'on connaît très bien, qui avait gagné la course. Et en plus, l'anecdote, c'est qu'on était arrivé avec mon club du Var, là, c'était l'Oppidum Bike à l'époque. On était arrivé un peu à l'arrache, à la dernière minute sur la course, la veille du départ. Et on n'avait pas eu le temps de reconnaître le parcours. On avait heureusement réservé un camping un peu à la dernière minute. Et puis voilà, puis ce souvenir, cette anecdote, surtout, c'est d'avoir mangé une pizza la veille de la course. Et ça m'a suivi après tout au long de ma carrière de trail. Et sur cette course, ouais, j'ai fait, je crois, pas loin du top 20. Et avec une superbe course de remontée, à partir de là, j'ai eu... pas mal de teams à l'époque qui m'ont approché et j'ai failli après partir semi-pro, voire professionnel dans le VTT. Voilà, donc pour moi, c'était un grand souvenir. C'est mon premier grand souvenir, on va dire, de sport.
Ouais. Ok. Elle était à quoi, cette pizza? On peut tout savoir.
Alors, c'est une pizza 4 fromages, ouais. Pour les connaisseurs, on va dire que... Enfin, les trois quarts des veilles de course que je fais, on va dire, je passe à une pizzeria, ça c'est vraiment mon truc, et je me prends une pizza 4 fromages, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un petit plaisir qui m'a toujours bien réussi, notamment sur les championnats du monde, ça a été relayé par le numéro 1 média de la pizza en France, alors je sais plus comment il s'appelle, mais veille de championnat du monde à Annecy en 2015, c'est bien une pizza 4 fromages que j'avais mangée, et le lendemain ça s'était plutôt bien passé, donc Voilà.
Ok. Bon, bah, comme quoi tu contredis tous les nutritionnistes qui disent effectivement de faire attention et de manger quelque chose de digeste la veille de course, quoi. Mais c'est quoi? C'est un porte-bonheur? C'est pour la notion de plaisir? C'est comment? Pourquoi tu crois à ce petit grillé?
Bah en fait, c'est quelque chose qui remonte à cette course de VTT des championnats de France,
ouais,
où on est arrivé à la dernière minute, vraiment sans pression, tout à l'arrache. À l'époque, je n'étais pas du tout dans l'optique de perfer, de faire de la performance de haut niveau. Et voilà, on a mangé une pizza parce qu'on n'avait pas trop le temps de réserver un resto, tout ça et tout. On était arrivé très, très tard en fin de journée. Et en fait, le lendemain de la course, ça m'a hyper bien réussi. J'avais une super forme. Et du coup, bon, je me suis dit, en plus, c'est quelque chose que j'adore. Bah, après, je l'ai fait perdurer dans le temps. Puis c'est quelque chose qui me rassure. Comme je sais que ça a marché sur beaucoup de courses. Bon, en fait, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Je pense que des fois, il ne faut pas trop tant se prendre la tête sur la nutrition. Donc moi, après, c'est vrai qu'à l'entraînement, des fois, le week-end, je simule des courses ou la veille, je simule pas simplement en fait que sur l'entraînement. Je simule aussi tout ce qui va se passer dans les 24 heures avant la compétition. Donc tous les repas que je vais faire, la sieste, à quelle heure, ma prépa matos, tout ça. Et de façon à éliminer en fait le moindre point d'interrogation, la moindre source de stress. Je sais que voilà, veille de course, ce repas-là, la pizza avec une petite pâtisserie en dessert, et ben je sais qu'à chaque fois ça passe bien. C'est mentalement, c'est du plaisir. Donc après, je pense que si on l'accepte mentalement, que au fond de soi, ben c'est du plaisir et qu'on n'y voit pas quelque chose de négatif. Et ben voilà, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, chez moi, ça fonctionne.
Bah écoute, bravo et merci pour ce petit tips. Tu m'as interpellé quand même parce que tu dis que tu travailles et tu simules tes 24 heures d'avant-course. Tu vas aller faire, je sais pas, un mois avant une course, tu te dis, ok, je vais faire 24 heures de répétition de la course, par exemple.
Ouais, voilà. Bah après, c'est pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver. Là, ça m'est arrivé récemment. Avec Laure, donc, qui est ma compagne, qui est naturopathe, justement, qui m'aide beaucoup aujourd'hui à bosser sur la nutrition en course, la nutrition d'avant-course.
Ouais.
Et justement, on fait beaucoup de travail là-dessus, parce que cette saison, j'aimerais bien continuer à prendre de l'expérience sur la longue distance.
Ouais.
Et donc, en fait, on travaille beaucoup sur, sur tous ces aspects-là, ces sphères émotionnelles, l'approche de la course sur la nutrition, sur le mental, sur le matériel. Et des fois, voilà, ça nous arrive sur tout un week-end, en fait, de vraiment simuler un événement, que ce soit de l'approche mentale à la nutrition, à la préparation matos. Et tout ça dans un but, en fait, pour le jour de la course, d'arriver et que tout soit bien calé mentalement, chaque détail, chaque heure, en fait, de l'avant-course soit un petit peu déjà travaillé à l'avance, et ça élimine déjà une source de stress.
Okay.
Et puis voilà.
On peut rentrer un peu dans le concret, parce que là, je trouve que c'est vachement original et c'est hyper intéressant. J'imagine que tu fais un planning, du coup, de tes 24 heures et que c'est un peu timé. Tu te dis à quelle heure je vais retirer mon dossard, à telle heure je vais manger tel repas, etc., etc. Tu vas courir un peu ou marcher, en tout cas, j'imagine, une veille de course. Tu te rends sur place aussi? Tu vas jusqu'à te rendre sur place sur le départ de la course ou pas?
Non, on va pas à ce point-là non plus, mais tout ça, on le fait à la maison. C'est vrai que là où on habite, c'est vrai qu'on a un formidable terrain de jeu au-dessus de notre maison. Donc, on arrive à très bien, des fois, quand je fais des simulations de course, je pars sur 4, 5, 6 heures au-dessus de la maison et je fais, par exemple, des portions de 2 heures. Souvent, c'est ça qu'on retrouve sur des ultras,
ouais,
des sections de 1 ou 2 heures, voire même 3 heures de progression en montagne. Et après, je reviens sur la maison. Là, on organise un petit ravitaillement,
okay,
simu de course, où je teste pas mal de choses. Voilà, avec Laure, tout ce qu'elle m'a concocté. Donc, c'est plutôt une approche très naturelle.
Ouais.
Parce que je pense que sur la longue distance, en tout cas, moi, ce qui me convient le mieux, c'est une nutrition la plus naturelle possible. Donc voilà, on simule. Et puis après, derrière, bah, je repars sur 2, 3, 4 heures de course et on voit bah, les choses tout simplement si elles fonctionnent au niveau digestif, au niveau énergétique, au niveau performance.
Ok.
Et c'est assez intéressant.
Ouais. Ok, hyper intéressant. Et peut-être pour être sûr de bien comprendre, quand tu dis naturel, tu vas faire peu de produits transformés, j'imagine. Qu'est-ce qui marche pour toi?
Bah des fois, c'est des choses qui sont très particulières, on va dire. Un exemple, j'avais fait un test récemment où on simulait un ravitaillement et une boisson justement qui m'allait bien, en fait, c'était du vinaigre de cidre mélangé avec de l'eau et du miel.
Okay.
Et voilà, très particulier parce qu'en termes de goût, bah, c'est assez âpre et tout en goût, mais avec du miel, ça adoucit un petit peu le goût. Et voilà, bah, c'est des aliments pour moi qui... Enfin, c'est une boisson qui fonctionne bien, qui permet de récupérer, d'adoucir un petit peu le pH qui, bah, avec la course, qui s'acidifie de plus en plus. Donc ça permet de redescendre un petit peu d'alcaliniser un petit peu le corps et de repartir, d'adoucir un petit peu les intestins qui s'acidifient vachement à l'effort et des fois avec les gels, tous les produits qu'on mange très sucrés.
Ouais.
Voilà, donc ça c'est un des exemples, mais... Voilà, on a toute une batterie d'aliments qu'on teste, qu'on met. Parce que pour moi, c'est vrai que l'entraînement, c'est bah, ces sorties-là, c'est un petit peu le meilleur laboratoire de test. Et je pense que c'est essentiel si on veut vraiment, comment dire, essayer de faire la meilleure course possible pour soi-même. Essayer de, parce qu'un ultra, bon, forcément, il y aura toujours des hauts et des bas. Mais si on veut essayer d'optimiser... les bas très souvent, et ben il faut essayer de voilà éliminer un petit peu tous ces points d'interrogation, notamment en nutrition.
Ok, hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu manges sur un ultra, toi?
Bah sur un ultra, alors quand j'ai débuté l'ultra, c'est vrai que j'étais encore sur une alimentation assez acide et à base de gel, très sucré. Et c'est vrai qu'effectivement, bon, j'ai fait à un moment, ça a été très compliqué. J'ai fait la meilleure découverte que, ben, voilà, au niveau digestif, des fois, ça, la saturation du sucré, c'est un petit peu le classique.
Ouais.
Au bout d'un moment, ben, ça passe plus. Et de petit à petit, fil en aiguille, en fait, donc Laure a passé son diplôme en naturopathie, plus un diplôme en micronutrition. Et ça, elle est passionnée par le domaine du sport. Ça fait 8 ans qu'elle me suit sur mes courses. Donc, elle voit un petit peu comment je fonctionne au quotidien. Et donc, ensemble, on a travaillé sur des protocoles voilà, d'alimentation, on va dire, assez spécifique, mais très basé sur le naturel, parce qu'avant, c'était vraiment essentiellement gel, boisson énergétique. J'associe en plus les deux, boisson énergétique plus gel.
Ouais.
Donc là, c'était un cocktail détonnant, très sucré. Et aujourd'hui, on est vraiment plus sur du naturel, avec des purées, par exemple, purée de patates douces, qu'on retrouve de plus en plus hein, dans le milieu des ultra-trailers. Beaucoup d'athlètes fonctionnent avec la purée de patates douces, des pâtes de fruits, des pâtes d'amandes, voilà, toutes ces choses-là, quoi.
Ok, hyper intéressant, merci de préciser ça. Comment est-ce que tu as fait la découverte un peu des petits dangers, justement, de la nutrition en ultra? C'est en changeant de distance, en essayant de monter sur des distances plus élevées. J'avais entendu dans une interview de toi que ce que tu affectionnais beaucoup, c'était entre 80 et 100 bornes, généralement. Et
ouais.
C'est quoi? C'est en montant sur des distances plus longues, du coup, que tu as commencé à rencontrer les limites un peu d'une alimentation très transformée en course?
Oui, c'est ça. Bah, tout simplement, c'est vrai que jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais plutôt spécialisé sur des formats entre 60 et 80, voire 100 km, 80 sur les championnats du monde.
Ouais.
Bon, c'est vraiment des formats que j'affectionnais beaucoup. Et au niveau alimentation, je trouvais que même en fonctionnant que du sucré sur toute la course, ça passait, il n'y avait aucun souci. Mais par exemple, quand j'ai commencé à faire en 2017, bah, mon premier ultra, c'était l'échappée belle. Mmh. Bah, là, ça a été vraiment autre chose. On était sur 26-27 heures de course. Et il y a un moment, en fait, le sucré, j'étais parti sur exactement la même alimentation que sur mes autres courses de 80-100 km. Et forcément, il y a un moment où ça a coincé et voilà, quand ça coince, des fois c'est pendant 4-5 heures, on n'arrive plus à s'alimenter parce que, et moi c'était le cas sur la course, quoi, donc j'arrivais plus à m'alimenter, donc baisse de performance parce que le rendement est quand même pas mal lié à l'apport de glucides. Et en ultra, je trouve que la dimension alimentation en course, elle prend une dimension encore plus élevé sur la performance que la dimension athlétique. Donc voilà, ça a un petit peu coincé. Et puis après, je me suis dit, bah écoute, c'est ton premier ultra, te prends pas la tête. C'est là où il faut prendre de l'expérience. Reste zen. Et c'est ce que j'ai fait. Et sois à l'écoute en fait de tes envies tout naturellement. Et en fait, la course, bah, je l'ai terminée essentiellement en mangeant du saucisson, du fromage de pays, des soupes locales. Celui de Chapé Belle, c'est une course que j'affectionne beaucoup. C'est où j'habite, dans le massif de Beldon. Et c'est une course unique avec des magnifiques terrains de jeu. Et les ravitaillements, c'est les locaux en fait qui confectionnent les ravitaillements. C'est la petite mamie du coin qui va faire la soupe pour les coureurs, le fromage chez le fromage local, le saucisson du papy. Donc j'ai fonctionné à 100% local et ça m'a plutôt bien réussi. Et voilà.
Ok, ouais, bah comme quoi des fois en fait il faut aussi écouter ce que le corps demande, quoi, et plutôt que de se forcer avec des produits qu'on consomme pas en dehors d'un cadre sportif, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est pour ça que là j'ai hâte d'arriver par exemple à ce printemps, enfin là on est au printemps, mais au beau jour et puis l'été, parce que ce que j'adore par-dessus tout, c'est partir sur des sorties de 8-10 heures en montagne et et expérimenter des fois un peu les limites du corps où je m'alimente pas pendant plusieurs heures, et pour justement arriver à ce stade où le cerveau il te dit, ah bah tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de saucisson, j'ai envie de fromage. Et voilà, c'est souvent ce que tu vas avoir besoin sur la course, quoi, ce que tu...
Okay.
Voilà, et moi je suis beaucoup à l'écoute du corps en fait, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui, le milieu du trail vachement grossi, il y a beaucoup de marques de nutrition, tout ça, et bon, je comprends l'aspect marketing des marques, tout ça, mais c'est vrai que moi j'essaye tout simplement d'être à l'écoute de mes envies, de mon corps, et même s'il y a une marque qui va prôner tel produit énergétique, apprendra telle performance, je pense que des fois, faut essayer de rester peut-être un peu plus terre à terre et écouter tout simplement ses sensations en course, ce qu'on a envie. Et...
Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. D'écouter un peu le corps et d'expérimenter aussi, tu vois, avec des produits dont que le corps connaît au quotidien et qu'on aime consommer, quoi. Qui est la notion de plaisir aussi.
Ouais.
T'as mentionné du coup l'échappée belle que t'appréciais beaucoup. Ça fait plus de 15 ans que tu cours. C'est quoi les courses sur lesquelles t'as particulièrement aimé le tracé ou l'ambiance et qui te laisse un souvenir impérissable?
Bon, on va dire qu'il y en a beaucoup. C'est vrai qu'en 15 ans de course à pied, j'ai expérimenté pas mal de formats de course, d'événements, sur vraiment tout type de format. Ce que j'aime dans notre sport, en fait, c'est la diversité et des formats, que ce soit l'ultra, le trail court, le trail longue distance, même la course en montagne. J'ai autant aimé courir une montée du nid d'aigle qu'un sierzinal, mais aussi préparer un UTMB, courir à l'éco-trail de Paris. Et vraiment, ce que j'aime, c'est courir sur des formats différents. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'éclate un petit peu plus en montagne. On est toujours sur l'écoute de soi, de ce qu'on a envie, de son plaisir. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de plus de courir en montagne, mais au tout début de ma carrière, c'est vrai que je courais sur tout type de format. Autant dans la saison, je préparais un éco-trail de Paris comme un furieux là tout l'hiver, en passant par le Gruissant Phébus Trail. Ça, je l'ai fait 2-3 saisons d'affilée. Et puis l'été, après, je repartais plus sur de la montagne avec la montée du Nid d'Aigle, le Trophée du Canigou. Après ça a été le 90 du Mont Blanc, l'échappée belle. C'est vrai que j'aime beaucoup à la diversité des formats et à l'entraînement. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, suivant le format, en fait, ton entraînement il va être totalement différent. Et un Eco Trail de Paris, tu vas pas du tout le préparer comme un 90 du Mont Blanc. La préparation sera totalement différente. Et c'est ça que j'aime, en fait, ça évite aussi de se lasser dans son entraînement, et aussi ça permet de travailler quelques qualités en début de carrière. C'est vrai, j'ai beaucoup couru sur des formats roulants, et ça m'a permis, je pense, de gagner pas mal de vitesse, tout simplement, de qualités athlétiques,
okay,
qui sont tout aussi valables sur certains formats de montagne.
Du coup, ouais, tu viens de me citer plein de courses. S'il devait y avoir qu'un seul exploit, qu'une seule performance, qu'une seule course que tu pourrais emmener avec toi, disons que par un maléfice horrible, on t'enlève la mémoire, mais on te laisse une course et les 24 heures avant, les 24 heures après qu'on suivi, lesquelles t'emporterais avec toi ? Laquelle ?
J'en ai droit à plusieurs, non ? Ou une seule ?
Je t'en laisse deux.
La première, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes de questions à se poser, c'est les championnats du monde en 2015 à Annecy. Pour moi, c'est la plus belle course que j'ai pu faire dans ma carrière, qui représente beaucoup, parce que gamin, en fait, donc je suis passé à côté d'une carrière de vététiste professionnel, et j'ai toujours eu ce rêve, en fait, de gamin, de porter le maillot équipe de France. Et en fait, quand j'ai gagné déjà les championnats de France en 2014, quelques mois avant les championnats du monde, donc je gagne ce titre de champion de France, et c'était aussi le ticket validé pour revêtir le maillot de l'équipe de France sur les championnats du monde à Annecy en mai 2015 suivant. Et voilà, déjà j'avais réalisé mon rêve, et je me suis dit champion de France, maillot de l'équipe de France, et j'étais qualifié pour ces championnats du monde qui étaient en France en plus. Et je me suis dit, en plus j'avais une vie très simple dans mon petit appartement à Bordeaux, j'avais pas du tout de travaux et de maison comme aujourd'hui, donc j'ai pu faire une vie vraiment entre guillemets d'athlète semi-professionnel. Bon, je travaillais toujours à plein temps, mais j'ai pu me consacrer vraiment à 100% sur ce projet-là des championnats du monde. Et je me suis donné vraiment à 1000%, j'ai sacrifié énormément de choses. Je me suis dit, allez, c'est la course de ta vie, tu donnes tout, c'est all-in. Mmh. Et au final, ça a matché. Et voilà, et même les sensations de course, le jour de cette course-là, je pense que j'en avais tellement envie de courir cette course des championnats du monde en France que j'ai vécu vraiment une course de rêve comme jamais. J'en ai vécu auparavant, et puis même après, où je me sentais... ressentais même plus la fatigue, même au bout de 6-7 heures de course. J'étais tellement, tellement bien dans mon élément, beaucoup de plaisir de porter ce maillot d'équipe de France. Et puis l'arrivée derrière, champion du monde, tout ça et tout, c'était des moments incroyables d'émotion.
Ok, comment est-ce que tu as fêté ça ?
Comment j'ai fêté ça? C'était assez incroyable parce que quand on gagne un titre comme ça, enfin moi j'étais, je suis quelqu'un d'assez réservé, sauvage, on va dire. Et en fait, on se retrouve un petit peu sous le feu des projecteurs, les médias, beaucoup de médias qui veulent une interview, donc ça allait très vite après derrière, pas forcément trop eu le temps de le fêter, à l'hôtel de l'équipe de France, le soir de la course, là on a fait une belle fiesta entre tous les coureurs de l'équipe de France, donc ça faisait plaisir parce qu'on avait gagné aussi le titre de champion du monde par équipe, filles et hommes, et Nathalie Mauclair aussi championne du monde,
Une sacrée saison, ouais.
Donc c'est une sacrée belle moisson pour l'équipe de France. Et puis après, derrière, ça a été propulsion médiatique sur Paris. Voilà, invité à Roland-Garros par mon sponsor à l'époque. Donc c'était... Ouais, ça a été... ouais, on va dire que c'est aussi là que ma carrière a un peu décollé, parce qu'avant, je n'étais pas forcément très, très connu. Mais après, quand on gagne un titre comme ça, on est un peu plus sous le feu des projecteurs.
Ouais. Ok. Qu'est-ce qui change après ? Il y a un revers de la médaille ?
Bon, le revers de la médaille, ouais, on va dire qu'il faut savoir... peut-être la petite leçon que je pourrais en tirer, c'est qu'il faut savoir... peut-être remettre les compteurs à zéro sur les courses qui suivent. C'est vrai que c'est quand on est champion du monde en titre, c'est pas évident, parce que après sur les courses qui suivent, on se sent... Enfin, moi à l'époque, j'étais jeune aussi, et je me souviens que j'étais un peu tendu, un peu stressé. Les championnats de France qu'on suivit, même si j'avais plein d'envie, on se sent quand même un peu plus attendu. On a un titre de champion du monde, on est un peu plus observé. Quand on va chercher son dossard, on passe un peu moins dans l'inconnu. Donc, wow, petite pression supplémentaire. Mais après, bon, je m'amusais de ça aussi, quoi. Voilà, après, c'est pas forcément à cause de ça que les courses se passaient bien quand même, hein, mais c'est vrai que ça, on revêt quand même une petite pression supplémentaire, quoi. Surtout quand on est jeune, on n'est pas habitué à la médiatisation, à tout ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, bah, on s'y fait. Et puis après, je crois que les Templiers qu'on suivit, j'ai pris une bonne claque. Voilà, j'ai pris la course un peu à la légère. Je me suis entraîné aussi dur que les autres courses. Mais voilà, fin de saison, je pense un peu cramé. Je prends une grosse claque. Là, je finis à peine top 15 ou top 10. Ça a été assez dur. Champion du monde en titre et tout en plus. Et comme, j'adore cette course des Templiers. Je voulais un peu mieux que ça, mais... voilà, ça remet un peu les compteurs à zéro. On se dit que, bon, voilà, même si on a perfé sur les championnats du monde, à chaque fois, voilà, faut remettre les compteurs à zéro. Et on a été peut-être le plus fort ce jour-ci, mais ça veut pas dire que les courses suivantes, on sera le meilleur.
Ouais, c'est vrai que je trouve, tu vois, en trail, ça rebat beaucoup plus les cartes à chaque course, tu vois. Peut-être que... en athlée ou sur des distances beaucoup plus courtes, notamment sur du plat, ça reste très prédictible. Effectivement, le système digestif est pas forcément mis à mal. La récupération, tu vois, est beaucoup moins dépendante de ton état de forme un peu global. Alors, faut arriver avec un pic de forme, hein, bien sûr, ça c'est sûr. En ultra ou sur des distances plus longues, en tout cas au-delà du marathon, je trouve, tu peux être beaucoup plus surpris par l'environnement, par ton corps, par de la fatigue un peu générale, et des fois quand ça casse quoi.
Bah, je pense qu'il faut vraiment être décontracté au niveau de la performance. Je pense qu'il faut, moi c'est ce que j'ai appris des fois à mes dépens, c'est que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que chaque course je la prenais comme limite la dernière, le couteau entre les dents, faut que ça perf, faut que ça... Et puis, puis souvent, quand on pense un peu comme ça, on aborde cette course dans cet état d'esprit, bah, ça marche assez peu souvent. Donc, au final, les meilleures courses que j'ai pu réussir, c'est des courses des fois où tout simplement, bah, j'avais trop envie d'y aller parce que j'adorais le parcours, parce que voilà, je connaissais pas la course. C'est un des super exemples, c'est le 90 du Mont Blanc en 2018 où... à l'inscription, j'ai fait un peu à la dernière minute, chercher une course et ce 90, forcément, c'est des formats que j'adore. Et je savais que c'était très montagneux, très dur, technique, un peu engagé. Et ouais, ça m'a donné trop envie, quoi. Même pas le côté médiatique ou que ce soit une grande course, mais plus vraiment le côté plaisir du parcours, aller s'éclater en montagne, monter le Brévent. Voilà, et au final ça m'a hyper bien réussi. Puis pareil, on est arrivé un petit peu à la dernière minute la veille de la course, que j'avais une permanence au boulot la veille là, donc on est arrivé un petit peu à l'arrache, la traditionnelle pizza d'avant course dans Cham, et puis le lendemain le départ sans trop dormir là. On a dormi, je crois que sur un bout de canapé, un bout de clic-clac, et puis voilà, mais ça a bien fonctionné. Et puis, tu vois là, ouais.
Okay. Tu trouves que les coureurs se prennent peut-être un peu trop la tête maintenant, ou se prennent trop au sérieux, comparé à cette notion de plaisir ?
Non, je dirais pas ça. Moi, là-dessus, chacun, je respecte l'approche de chacun. Moi, là-dessus, en fait, au début, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais très axé performance, et je me mettais peut-être un petit peu trop de pression. Parce que voilà, l'entraînement en course à pied, c'est quand même dur. Pour arriver à haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. En fait, au final, une course, c'est qu'une goutte d'eau en fait dans les préparations du coureur. En fait, c'est par exemple pour un 90 du Mont Blanc, c'est 11 heures de course. Mais avant, en fait, on a peut-être fait 100, 200, 300 heures d'entraînement pour être très fort ce jour-là. Et en plus, ouais, des sacrifices sociaux, en termes de nutrition aussi. Voilà, on se met beaucoup de sacrifices, et ça, c'est des fois compliqué, quoi. Mmh. C'est voilà, faut pas. Voilà, maintenant, moi, j'ai appris à pas trop me prendre la tête. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les courses où j'y allais avec, ouais, j'avoue, hein, des fois, j'allais sur des courses parce que des fois sans forcément de plaisir, mais parce qu'un partenaire ou un sponsor me disait bah, ce serait bien d'être là sur cette course, mais moi j'aimais pas tellement de parcours, donc j'y allais plus par obligation, mais je le comprends. Après, c'est pas une critique envers les partenaires et les marques qui nous suivent, parce qu'elles nous aident aussi à réaliser nos rêves et d'athlètes et de performance, de carrière, tout ça. Mais voilà, des fois, quand j'ai eu des obligations de courir sur certaines courses, bah, ça a même jamais marché, parce que voilà, j'avais pas envie d'y aller. Et voilà. Et les courses où ça a mieux fonctionné, c'était là où où j'avais vraiment envie d'y aller. J'adorais le parcours. Mais voilà, donc maintenant, je me prends pas la tête. Mon calendrier, je le fais vraiment au plaisir, vraiment là où j'ai envie d'aller. D'aller courir, parce que voilà, je kiffe le parcours, l'ambiance, je sais qu'avec la famille aussi on va passer un bon moment, parce que le trail aussi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est voilà, la notion de voyage, de découverte des endroits où on va sur certaines courses, que ce soit en France ou dans le monde. Mais à chaque fois, c'est aussi des moments un petit peu touristiques où on découvre des paysages, une nouvelle contrée, une autre culture. Donc voilà, maintenant c'est calendrier course au plaisir.
Ouais. Ok. Le monde du trail, il a beaucoup évolué, j'ai l'impression, tu vois, ces dernières années. Toi qui cours depuis très longtemps, qui fais des courses depuis très longtemps, qu'est-ce qui t'étonne le plus sur ce qui est en train de changer, ou qu'est-ce que tu remarques le plus dans le changement ?
Ce que je remarque peut-être le plus, c'est le côté professionnalisme des coureurs. Ouais. C'est vrai que quand j'ai commencé le trail en 2009-2010, quasiment tous les coureurs de haut niveau, on était plus ou moins amateurs, semi-professionnels. On avait tous un emploi à côté, à plein temps. Et puis voilà, avec l'aide de sponsors, et on arrivait aussi à vivre un peu notre passion et tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une démarche un petit peu plus professionnalisé. On a de plus en plus de coureurs qui choisissent d'avoir une démarche professionnelle, donc d'arrêter de travailler ou de faire que ça. Et après, ce que je peux comprendre, parce que il y a de plus en plus de marques qui s'investissent dans le milieu, il y a de plus en plus d'enjeux marketing, de plus en plus d'argent tout simplement dans le milieu. De gens qui courent, tout ça. Donc les marques ont plus de moyens pour aider les coureurs, et je compare souvent en fait le trail au VTT, j'ai connu aussi quand je le pratiquais, c'était quand même déjà un sport professionnel, mais au début c'était assez amateur. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, c'est devenu de plus en plus professionnel. Les mecs, ils font que ça, ils sont dans des teams, il y a tout un staff autour. Voilà, et le trail, je trouve, en prend un petit peu le chemin, et ce qui est positif en termes de performance, parce que aujourd'hui, je trouve que oui, la plupart des courses, ça va encore plus vite qu'avant. Voilà, parce que bah, les coureurs, ils ont de plus en plus de temps pour s'entraîner, pour faire du volume, pour récupérer, pour faire les soins, voilà, tout faire bien, quoi. Que c'est vrai que quand on a un boulot à côté, enfin, moi j'ai expérimenté un petit peu à mes dépens là, pendant 3-4 ans, où en plus du boulot à plein temps, bon, je rénovais une maison avec ma femme. Donc jouer sur trois tableaux, quoi, travail, rénovation le week-end, en essayant de maintenir un entraînement de plus ou moins bon niveau, on va dire. Et ouais, ça a été vraiment très compliqué, quoi. Donc
ouais.
En termes de performance, ça a chuté. Mais bon, voilà, c'était une expérience très positive.
Ouais. Puis c'était un ordre de priorisation, quoi. Tu voulais ce projet de maison était très important pour toi et t'avais envie de le réaliser aussi, quoi, j'imagine.
Ouais.
Maintenant que c'est fini, tu dois en être fier.
Ouais, on en est très fiers. Après, c'était un rêve au fond de moi. Je rêvais d'avoir mon petit bout de chalet à la montagne, tout simplement, avec ma compagne. Et voilà, on s'est attelé à ce projet. On pensait que ça allait durer qu'un an et demi. Donc moi, j'étais tout à fait amateur dans le bâtiment. J'étais simple bricoleur. Et puis, par manque de moyens, de fil en aiguille, on n'a pas pu forcément faire appel à des boîtes pour faire les travaux. Donc on a quasiment fait 80% de la maison nous-mêmes, tout, hein, donc carrelage, placo, plomberie, électricité, maçonnerie, charpente, mais enfin menuiserie, tout, un peu tous les corps de métier. Donc ouais, physiquement ça a été très dur, mais très enrichissant personnellement, parce que voilà, on sort totalement du milieu du sport de haut niveau. Là, on est plus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dans le milieu du bâtiment. Donc c'est un autre sport qui est tout aussi physique. Et quand on fait de la course, de l'entraînement en même temps, voilà, c'est tout simplement pas jouable sur du haut niveau, quoi. Je l'ai expérimenté. C'est vrai que, je l'avoue, hein, pendant ces 3-4 années de travaux, j'ai essayé de maintenir un... Je pensais que j'allais pouvoir continuer à jouer devant, à maintenir un très haut niveau. Donc chaque course, je continuais à les prendre vraiment à cœur. J'essayais de faire du mieux que je pouvais. Mais très souvent, voilà, ça durait, ça tenait 2, 3, 4 heures.
Okay.
Une bonne forme, et puis souvent, ça flanchait, quoi. Voilà, ouais. Pas de jus. Et, voilà. Mais super expérience, en tout cas, ça m'a permis de découvrir ça. Ouais.
Bah écoute, bravo pour ça. En tout cas, je sais que c'est un chouette projet. T'as beaucoup parlé effectivement de ce milieu qui se professionnalise. Du coup aujourd'hui on est chez Wise. On est un peu l'image, tu vois. Alors c'est la petite boîte française qui se spécialise vraiment dans le matos d'ultra. Je voulais te poser la question. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de perdre une course à cause du matos? Ou est-ce que t'as déjà des anecdotes de course où un mauvais choix matériel t'a mené à une contre-performance?
J'ai une anecdote sur les championnats du monde 2016 où à un moment, bon, c'est pas à cause du matériel, mais c'est plutôt un oubli de dossard que j'avais laissé dans mon sac. Et bon, à un moment, on a fait une permute de sac au ravitaillement, au dernier ravitaillement des championnats du monde à 10 km de l'arrivée. Et 100 mètres après le ravitaillement, il y avait un checkpoint de contrôle de matériel obligatoire, dont le dossard que j'avais laissé dans mon sac. Au ravito d'avant, donc 400 mètres avant. Non, c'était 400 mètres avant. Et du coup, arrivé sur ce checkpoint, il est où ton dossard et tout. Et là, pris de panique, donc j'étais deuxième, troisième avec Nicolas Martin à ce moment-là sur le championnat du monde, je crois que c'était 2016 au Portugal. Et donc voilà, retour en arrière pour aller chercher le dossard. Donc j'ai dû perdre 2-3 minutes dans la bataille, puis je suis reparti. Et puis bon, voilà, j'ai quand même pu faire troisième, donc ça l'a fait, mais. Voilà, c'était ça. Mais après, anecdote matérielle, peut-être plutôt nutrition, ouais, des erreurs côté nutrition, ouais, qui m'ont coûté cher. Après, au niveau matériel, pas tellement. Si, après, sur l'échappée belle, ouais, j'ai cassé un bâton en deux morceaux, ouais, dans les cailloux, un peu le classique, ouais, le bâton qu'on coince entre deux pierres dans une descente de nuit, la descente à côté de chez moi d'ailleurs, la descente de Valpelouse, et coincer le bâton entre deux cailloux, et clac, le carbone qui a pété, donc...
Ok.
Voilà. Bon, je citerai pas la marque du bâton, mais je pense que n'importe quel bâton aurait cassé quand même à ce moment-là, ouais.
Ok. Comment est-ce que tu as rencontré Guillaume, du coup ?
Guillaume, alors je l'ai rencontré à la suite de l'Endurance Trail des Templiers. Donc ça, c'était fin d'année, octobre 2023, donc l'année dernière. Bah, je faisais un petit peu mon retour en forme, on va dire. Depuis septembre 2023, j'avais repris un petit peu l'entraînement sérieusement. Et avec Philippe Propage, mon coach, depuis 14 ans, déjà, on s'était dit, bah, pourquoi pas essayer de prendre un dossard à l'Endurance Trail des Templiers. De fil en aiguille, bon, la forme était plutôt pas mal. Et je suis arrivé sur Endurance Trail, je suis deuxième. Après une bonne course, j'étais assez content de ma forme. Ça revenait bien. Et à l'issue de cette course, Wise en fait a pris contact avec moi. Et on s'est vu à la suite le lendemain de la course. On a eu une discussion, un échange, notamment avec les personnes qui travaillent pour la marque et qui m'ont présenté les produits, un petit peu l'histoire de la marque, qui m'a beaucoup touché, le fait que ce soit une marque 100% française, avec, on va dire, une conception des produits raisonnée, écologique, et surtout aussi une approche de la performance sans pression, on va dire. Moi, ce qui m'a plu dans le projet, en fait, avec Guillaume, avec toute l'équipe Wise, c'est que moi, c'est vrai que je sors de 3-4 ans un peu compliqué niveau performance. Voilà, faut se l'avouer. Ça a été très dur et même pour l'ego, quand on est compétiteur, arrive à pas sortir une performance pendant 3-4 ans. Enfin, quand j'ai fait, surtout après avoir fait une carrière comme j'ai fait avec des victoires sur des grandes courses, ça a été dur et j'avais du mal à entrevoir le fait de me réengager auprès d'une marque et avec beaucoup d'attentes sur moi, de résultats, de tout ça et tout, d'avoir une pression de résultats. Et avec Guillaume et toute son équipe, c'était pas du tout ça, quoi. Il m'a très bien expliqué que c'était avant tout un projet, un cercle d'athlètes, voilà, pour écrire une histoire, une belle histoire. Voilà, donc pas forcément de performance, mais plutôt voilà, de chacun écrire son histoire sur le sentier qu'il aime. Donc moi, ça va être l'ultra cette année. Donc voilà, pas de pression de performance. Moi, c'est ça qui me plaît. Et vis ta course, vis ta passion comme tu le désires, comme tu l'aimes. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu.
Ouais. Ok. Cool, c'est vrai que c'est une chouette approche et qui change d'autres maisons, en tout cas. Ça t'a pas fait peur de voir un petit jeune un peu fougueux qui a envie de révolutionner le monde du trail et de l'équipement, tu vois, qui a beaucoup de conviction aussi, tu vois, et a raison parce qu'il a profité des produits, le sac est, en tout cas moi je le trouve incroyable, après j'ai peut-être pas autant d'expérience que toi, enfin, vraiment pas du tout, mais ça fait pas peur, tu vois, en te disant, tiens, là c'est un petit nouveau, tu vois, à l'inverse, t'allais voir une grosse maison déjà très en place.
Moi je trouve ça beau, j'aime bien ce genre de challenge, je trouve que c'est pas facile, c'est pas facile parce que bon, sur le marché aujourd'hui avec toutes les plus grosses marques de trail, ils ont un gros pouvoir dans le milieu, forcément beaucoup un gros niveau financier, donc forcément c'est dur, hein, de faire face à ces grandes marques là. Mais le fait d'être sur le marché un petit peu du produit, on va dire, à faible empreinte carbone et d'élaborer des produits les plus raisonnés possibles, je pense que ça parle à de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, on a un niveau sur la planète où, où je pense qu'on se rend compte tous que faut peut-être réfléchir à des choses un petit peu plus écologiques à tout niveau, hein. C'est que ce soit dans le trail, mais je vois nous aussi notre maison, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus écologique possible avec une empreinte carbone la plus minimale possible, la plus minimaliste. Et je pense que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans ce créneau-là et que d'autres marques, et là c'est là que je comprends peut-être un petit peu moins que des marques avec de très gros moyens n'aillent pas de plus en plus vers cette voie-là, surtout dans les sports outdoor, essayer de minimiser son empreinte carbone. On continue un petit peu à produire en Chine, très loin, et après je suis pas là aujourd'hui pour faire la morale, parce que je pars du principe que personne n'est irréprochable, et moi le premier, hein, je fais beaucoup d'erreurs écologiques, hein. Je vais au boulot, après j'ai pas trop le choix, je vais au boulot en voiture, tout ça, si je pouvais y aller en vélo, mais c'est ce que, enfin je trouve que c'est une noble cause, c'est une belle histoire que Guillaume et Axel ont décidé d'écrire, et j'espère que ça va aller loin, mais j'en doute pas trop, parce qu'aujourd'hui je pense que on a vraiment besoin de ça, de personnes comme ça qui sont sensibles à l'environnement, à l'écologie, et essayer d'aller de plus en plus vers cette voie là
ouais. Puis Guillaume est un pur entrepreneur, vraiment motivé et convaincu. Donc, j'ai pu voir sa passion pour les produits, comment est-ce qu'il en parle et tout. Et on voit qu'il a des étoiles dans les yeux, en fait, que c'est sincère. Donc, j'imagine que ça aide au discours, en tout cas, tu vois, pour parler avec toi.
Ouais. Et c'est vrai que Guillaume, bon, c'est quelqu'un de, très intelligent là-dessus, et qui a eu, quand on a dit nos premiers échanges, nos premières discussions, le passif qu'il a eu dans certaines grosses entreprises, tout ça, avec des fois des manières de fonctionner complètement contraires à l'écologie. Je pense que ça, c'est aussi, il aurait pu continuer dans cette carrière peut-être un petit peu facile, un peu tranquille et tout, mais il a choisi peut-être de claquer un peu la porte à tout ça et essayer de prendre cette voie écologique, mais c'est beaucoup de risques, hein, parce que du coup on sort de sa zone de confort et on se met à créer son entreprise, sa petite entreprise face au gros du marché. C'est pas facile, mais ça a l'air de bien évoluer positivement.
Ouais, je me fais pas de soucis pour lui, ça avance à son rythme. On a déjà quasiment fait une heure. Ouais, t'as vu, ça passe vite. Hein. Quand on est en bonne compagnie, ça passe plus vite. T'as mentionné plusieurs fois ton travail. T'as quand même un travail un peu particulier. Moi, j'ai vu que t'étais caporal aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas, ou est-ce que ta fiche Wikipédia n'est pas à jour?
Non, pas trop à jour. Ouais. Je suis caporal chef. Ouais.
Caporal chef, ok. Tu travailles dans l'armée, c'est ça?
Ouais, je travaille pour le ministère de la Défense. J'ai une carrière. Bon, ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le ministère de la Défense. Donc, avec un passif, opérationnel pendant 10-12 ans, des missions un petit peu à travers le monde, pas forcément dans des endroits très exotiques, mais qui m'ont forgé pas mal d'expérience, une grosse force de caractère. ça a été 12 belles années, et maintenant depuis 8 ans, on a tourné un petit peu la page de l'opérationnel, et maintenant je pars plus en mission à l'étranger, je me cantonne à la France, déjà c'est très bien, et voilà.
Ouais, bien sûr. Pourquoi t'as fait ce choix, jeune? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'armée et en plus d'aller sur le terrain, quoi, concrètement?
Après c'est un petit peu le fruit du hasard. Je suis rentré à l'armée parce que étant très sportif dans ma jeunesse, j'ai fait des études en fait de jardinier paysagiste, BEP, bac professionnel, et s'en est suivi après un début de vie professionnelle dans ce milieu-là. Et très vite, Ouais, j'ai vu que moi qui adore le sport, notamment le sport de haut niveau, ça allait vraiment être très compliqué de continuer à faire sa passion. Donc à l'époque, c'était le VTT. Et parce qu'en VTT, il faut faire vraiment beaucoup, beaucoup de volume pour être performant. C'est même des fois deux fois plus qu'en course à pied. Donc là, j'avais plus du tout le temps, quoi. Les chantiers, donc c'était dans le Var, c'était. Donc quand il fait très, très chaud l'été, on commence le boulot à 7h, à 6-7h du matin, et des fois on finit à 18-19h le soir, donc ça laisse pas trop de place à s'entraîner, à faire du sport. Ou sinon, quand on a le temps, c'est plutôt le soir, mais on est vraiment, vraiment très fatigué. Donc je me suis dit, faire toute une vie comme ça, honnêtement, je ne me voyais pas vivre comme ça. Donc je me suis renseigné sur l'armée et en fait, j'ai prospecté justement une spécialité. On va dire assez opérationnel. Bon, pour moi, c'était voilà, c'était pour moi l'aventure, changer totalement de vie. Voilà, donc je suis parti de très loin de chez mes parents, assez jeune, et pour cette vie opérationnelle. Et pour moi, voilà, je voyais le côté aventure, le côté opérationnel, un petit peu faire un métier qui sort de l'ordinaire. Voilà, on n'est pas sur un métier de monsieur tout le monde. Et voilà, faire plein de choses très particulières, du parachutisme, de l'hélico, des grappes, des rappels, voilà, tout ce qui est aérocordage opérationnel. Voilà, tout ce côté aussi un peu sensation forte que j'aimais, parce que tout gamin, c'est vrai que je suis plutôt issu des sports de glisse. Donc très gamin, j'ai fait du surf, du skateboard, tout ça et tout. Et quand on m'a renseigné en fait sur ces métiers-là à l'époque, j'étais plutôt emballé. Ouais. On m'a dit, bah, tu vas partir aux quatre coins du monde, faire des missions, faire de l'hélico, de l'avion. Bon, quand on est gamin, ça fait rêver, quoi. Enfin, moi, ça me faisait pas mal rêver, ça me faisait pas mal kiffer. Donc voilà, je suis parti fanjo vers cette voie-là et j'en suis pas déçu. Ouais. Je me suis vraiment bien régalé.
Ok. Et à aucun moment il y a la peur de potentiellement intervenir sur une zone de guerre?
Ben, si, si, parce que j'ai fait des interventions sur des zones hostiles, hein, donc ouais, des zones très connues. En Asie, donc pendant des mois, et voilà, on se faisait bombarder tous les jours. Voilà, des moments vraiment très très chauds. Ça, j'en ai vécu chez des copains, même voilà, que j'ai vu partir, perdre une jambe, exploser sur une mine. Enfin, voilà, des choses pas forcément très drôles, quoi. Donc ça je l'ai vécu, hein. Donc ouais, quand on y est, c'est pas du tout comme dans les films ou comme dans les jeux vidéo. Moi, je connaissais cette vie-là qu'à travers de ces choses-là, et quand on y est, et qu'on prend des bombes sur la figure, toutes ces choses-là, c'est waouh. Là, on se dit, on est vraiment tout petit, quoi. Et c'est un peu, ouais, c'est une sacrée expérience. Mais bon, quand on rentre en France, c'est vrai que on se dit qu'on est vraiment tellement bien en France, et que dans un pays en paix. Et des fois, on se plaint pour des choses futiles, pour des et ça, c'est vrai que quand j'ai fait la Centrafrique, le Tchad, tout ça et tout, on avait des enfants qui nous couraient après pour avoir une bouteille d'eau, juste pour boire, quoi. Et des fois, on se plaint en France parce qu'on n'a pas le dernier jeu vidéo, la dernière paire de baskets à la mode et tout. Et quand on va dans ces pays-là, quand on vit ces moments-là, waouh, ça nous remet à notre place. Et c'est vrai que quand on rentre en France, on se dit, ouais, quelle chance on a quand même d'être dans ce confort-là, et on n'a vraiment pas le droit de se plaindre, quoi.
Tu dirais que tu savoures plus la vie maintenant que tu as vu tout ça?
Oui. Ouais, forcément, bon, on apprend sur soi-même. Maintenant, c'est vrai que très souvent, enfin, ma phrase, c'est vraiment vivre chaque jour comme le dernier, quoi. Apprécier chaque moment. Parce que voilà, il y a des moments de ma vie, dans ma carrière professionnelle, où des fois voilà, je me levais et j'étais pas forcément sûr de m'en sortir vivant le lendemain, et voilà, c'était vraiment des fois très compliqué. Et on apprend sur soi-même, et ouais, maintenant je vis vraiment chaque jour comme le dernier, quoi, parce que c'est voilà, quand on vit des moments comme ça, c'est
bien sûr. Quel a été ton plus gros apprentissage sur toi-même en tant que être humain de ces 12 années en fait de terrain? C'est difficile de résumer 12 ans en peu de temps, mais moi ce que je serais curieux de savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté de positif et comment ça t'a transformé positivement en fait?
On va dire que c'est vraiment cette notion là de entre guillemets, des fois je dis en rigolant, mais peut-être un petit peu ce gosse de riche là, européen, qui se plaint pour rien du tout de pas avoir la dernière paire de baskets à la mode, ou t-shirt, ou ce dernier jeu vidéo, voilà, un truc. Et quand on part dans ces pays là, surtout moi ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'Afrique, où il y a ces petits qui nous couraient après pour avoir de la nourriture, de l'eau, enfin juste pour se nourrir et pour boire, pour vivre, simplement survivre, parce que c'était vraiment le cas. Et y a même des fois où j'ai un petit peu outrepassé les commandements, où je l'avoue, ouais, j'ai caché de la nourriture, des bouteilles d'eau, et quand je partais de nuit sur des gardes et tout, et ben, je balançais par-dessus la clôture des bouteilles d'eau, des boîtes de sardines, de la nourriture, parce que ça nous arrivait des fois de jeter des aliments, tout ça et tout. Donc, cette notion de gaspillage, des fois que on s'en rend plus trop compte au bout d'un moment. Mais donc moi j'essayais tant bien que mal d'essayer d'apporter un petit peu de réconfort à ces jeunes qui mouraient de faim, qui mouraient de soif. Donc, et quand on rentre en France, ça nous met une sacrée claque. Et c'est vrai que alors moi je suis pas du tout dans le jugement et de faire la morale, c'est vraiment pas mon rôle, mais c'est vrai quand je vois certaines personnes qui se plaignent de futilité, au fond de moi, je dis jamais rien, mais au fond de moi je me dis, est-ce que j'ai pas envie de faire le vieux aigri ou l'ancien, ouais, faire la morale et tout, mais je me dis putain, mais faut arrêter de te plaindre mec, putain, tu sais pas qu'à l'autre bout du monde il y en a, ils crèvent la faim et ils rêveraient d'être à ta place tout simplement, quoi, c'est ça.
Ouais. Ok. Merci de le rappeler. Tu vois, et c'est bien des fois de l'entendre. Tu vois, de certaines personnes qui l'ont vu. Et c'est vrai que on oublie beaucoup, je trouve, en France, le prix à payer pour être en paix, en fait.
Ouais,
on est vu comme étant le pays de la démocratie. On a c'est des valeurs peut-être que des fois on prône un peu trop, tu vois, et qu'on va peut-être trop défendre à travers le monde, tu vois. Donc après c'est pas à nous de peut-être d'en juger ou quoi, mais c'est vrai que en tant qu'être humain on peut se rappeler que tout le monde n'a pas cette chance là quoi, et avoir du coup être reconnaissant pour ça, c'est, je pense, c'est, ça permet d'élever son niveau de bonheur en tout cas.
Oui, oui, tout à fait. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, sans être dans le discours politique, mais en Ukraine, vraiment pas très loin de chez nous, tous ces malheureux là, toutes ces familles qui perdent leurs proches et tout, et ouais, c'est quand même pas si loin de chez nous. Et nous, on est ici dans notre confort, déconnecté, on se rend vraiment pas compte des choses qui vivent. Et moi, voilà, j'ai vécu dans ces zones là, donc je sais comment ça fonctionne. Voilà, que les médias ne disent pas tout. Et voilà, c'est tellement malheureux, mais c'est aussi pour dire qu'il faut qu'on essaye de voilà, se rendre compte de la chance qu'on a, et voilà, d'apprécier chaque moment, essayer de peut-être dans notre société d'être un peu plus à l'écoute des autres, essayer de de se soutenir, d'être un peu plus cohésion, de voilà, parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans une société un peu individualiste et...
Bien sûr.
Et voilà, ouais.
C'est mieux que les médias disent pas tout ?
Ouais, il y a certaines choses, ouais, vaut mieux pas en parler. Après, Voilà, moi je suis pas là pour faire de la politique et la morale, hein, je le répète, mais
les médias c'est pas de la politique, tu vois. Enfin, en théorie, la presse française est supposée être libre.
Oui, oui, oui.
Toujours un peu orientée, mais
supposée, ouais. Avec un sourire.
ouais, bien sûr. Après, t'as des médias orientés, t'as des médias volontairement non orientés, tu vois. Donc c'est toujours difficile. Ok. Mm. Moi, c'est une question que je me pose, tu vois. Est-ce qu'il faut passer sous silence certaines choses pour notre bien-être? Est-ce qu'il faut en parler justement pour en faire prendre conscience? Mais si tu te mets à en parler, tu te mets à parler de tout. Quelle est la hiérarchisation des choses auxquelles tu parles, tu vois, et qu'est-ce que tu priorises? Et pour notre cerveau humain tout petit, c'est difficile des fois de prendre en compte toutes ces informations. Donc c'est vraiment une question que je me pose, quoi. Donc ça m'intéresse, tu vois, d'avoir ta réponse pour toi qui as vu les choses.
Bah, je pense qu'il vaut mieux. Moi, pour être du métier, pour avoir vécu dans ces zones-là et avoir fait mon métier du mieux que je le pouvais, je pense qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas qu'on sache. Nous, on est entre guillemets pro et on sait. On n'est pas forcément. On est un peu banalisé au bout d'un moment de certaines choses qu'on voit et tout. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que en France, les trois quarts des personnes, c'est quand même un public plutôt sensible. Et je pense qu'il y a des choses, il faut éviter de monter dans un climat de terreur. Donc, c'est vrai que c'est une question, c'est pas évident parce que d'un côté, dans ces pays-là, il y a des gens qui vivent des vrais malheurs. La vie est vraiment pas facile, mais c'est vraiment pas évident parce que on peut pas non plus les ignorer, ces gens-là qui vivent ces malheurs. Mais en même temps, on peut pas non plus. C'est difficile de tout dire parce qu'après, y a des personnes qui peuvent vite être terrorisées, avoir des psychoses. Donc c'est pas facile. Ouais, là-dessus, je dirais un peu de joker. Ouais.
Ouais, bien sûr. C'est assez philosophique, tu vois. C'est difficile d'avoir tous les éléments et vraiment de trouver une bonne réponse. Si on remet un petit peu de note de positif, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'athlète? Ça aide d'être dans l'armée pour s'entraîner, pour être dans un écosystème où, quand même, quand vous êtes sur le terrain, ou en mission, ou en entraînement, tu vois, ou même de garde, a priori, vous buvez pas. Donc, t'es dans un écosystème quand même assez sain. Je sais pas la qualité de la nourriture, mais voilà. Vous êtes entraîné à de la privation de sommeil, donc sur de l'ultra ou sur de la course, ça aide quand même, je trouve. Je sais pas. Quels sont tous les avantages, tu vois?
On va dire que pour le sport de haut niveau et l'ultra, on va dire c'était plutôt le côté mes années opérationnelles qui m'ont apporté beaucoup, forcément, comme tu le dis, hein, la privation de sommeil, quand on part des fois sur des stages de survie où pendant une semaine on mange pas grand chose, on dort pas beaucoup, on est tout le temps à dormir sous une bâche. J'avais fait un stage de survie, c'était pendant un mois, on dormait sous bâche, à manger uniquement ce que nous donne la nature, de temps en temps, des rations de combat, tout ça. Donc on apprend à être dur mentalement, à se renforcer face aux conditions climatiques qu'on rencontre. Donc moi, c'était un stage en l'occurrence en montagne, dans les Pyrénées, stage de survie d'un mois. Et donc voilà, les conditions de froid, de pluie, d'humidité, manque de nourriture, donc beaucoup de marche de nuit, on dort pas beaucoup, donc des fois des situations qu'on rencontre sur des ultras, donc mentalement ça renforce. Ouais.
Donc toi, t'avais déjà connu en fait les hallucinations qu'on peut avoir quand on est à bout de sommeil, au bord de l'hypoglycémie, t'avais déjà connu quoi?
Ouais, plus ou moins. Après, des fois, on s'endort en marchant et on voit le collègue devant nous qui titube, qui s'endort en marchant et puis qui tombe dans le fossé. Ça c'est arrivé de voir ça. Bon, après, ça c'est vraiment au bout de beaucoup de jours de progression en montagne. On est en mode survie, on a très peu mangé. Globalement, sur un ultra, c'est quand même un petit peu moins le cas, où le but du jeu, c'est quand même arriver au départ de la course à 100% enfin. De ses réserves. et la course, elle va durer normalement 24 heures, voilà, un ou deux jours max. Là, on était plutôt sur un mois. Donc, au bout d'un moment, ça pique un peu, ouais.
Non, mais toi, t'es au départ d'un 100 bornes, en fait, c'est une partie de plaisir, quoi, comparé à ce que ouais. t'as pu vivre un peu avant, j'imagine.
Ouais.
Donc, on a vu, ouais, privation de sommeil, privation de nourriture. Vous marchez beaucoup, des fois, c'est des journées à 50, 60, 70 kilomètres. C'est quoi le plus que t'es marché sur 5-6 jours ?
Sur une semaine, ouais, c'est peut-être... Ouais, une petite centaine de kilomètres, ouais.
Sur une semaine ?
Sur une semaine complète, ouais. Ouais.
Après, le sac, il est lourd aussi.
Après, c'est le sac très très lourd. Voilà, on a les transmissions, on a la nourriture pour une semaine au moins. Plus, voilà, tout le matériel spécifique, quoi, du militaire, quoi. Donc, non, c'est des sacs à facile entre 20 et 30 kilos, ouais, sur le dos, ouais.
Ok. Okay.
Donc c'est un peu plus lourd qu'un sac UTMB, on va dire.
Ok.
J'imagine. Enfin, vaut mieux, quoi.
Même avec le sac... Enfin, avec le sac Wise qui est si léger, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des tips de ta vie de militaire que tu as utilisé dans l'ultra, tu vois? Des tips de performance un peu concrets, tu vois?
Pas forcément...
J'ai une question à te poser, alors peut-être que je vais t'orienter un peu. Est-ce que tu as appris à dormir sur commande, par exemple ? Si tu te poses et que tu fermes les yeux, tu arrives à t'endormir très rapidement ?
Non, j'ai pas ce don-là, ouais. Cette faculté-là, malheureusement. Ouais.
Parce que je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui arrivent.
Ouais, ouais.
Vraiment à se poser après, vraiment à fermer les yeux et à vraiment s'endormir. Toi, tu n'as pas ça ?
Non, j'ai pas ça. Alors après, j'ai un copain à moi dans mon boulot qui, ben à l'époque, m'avait fait une belle préparation mentale pour les championnats du monde en 2015.
Okay.
Mika, ouais, Big Daddy. Et il m'avait fait ce qu'on appelle dans notre boulot, c'est le top, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Donc voilà, c'est un petit peu de la préparation mentale. D'avant-course. Enfin, nous, ça, on l'utilise beaucoup en opérationnel pour les pilotes de chasse, pour les unités ops. Et puis, nous, on l'avait transposé un petit peu sur la partie sportive, la partie donc trail, et ça avait assez bien marché. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça, on le retrouve beaucoup. Hein, c'est de la préparation mentale classique. Par exemple, veille de course... Voilà, pour faire redescendre un petit peu les niveaux de stress, on s'allonge et voilà, c'est les techniques de respiration en carré, projection sur la course, sur l'objectif, visualisation, tout ça. Et,
ok.
Ouais, c'est des choses que je continue à utiliser puis qui marchent pas mal. Ouais.
Et vous faites ça à l'armée du coup, ok.
Ouais.
La visualisation, des techniques de respiration, c'est dans quel cadre ?
C'est essentiellement dans le cadre opérationnel, voilà.
Okay.
Donc
visualiser
un objectif. Après, il y a des parallèles assez intéressants en fait entre un sportif de haut niveau et un pilote de chasse qui part en mission. Lui, il a son objectif. Bon, c'est pas un objectif de compétition, c'est un objectif de mission. Et pour y arriver, faut qu'il diminue ses facteurs de stress et justement le top sert à ça, les techniques d'optimisation du potentiel, se projeter sur l'objectif et voilà, visualiser en avance sa mission et voilà, pour qu'elle se passe au mieux. Et du coup, transposer au niveau du sport, et ben ça a du sens aussi, ouais.
Ok. Bah écoute, je suis très curieux, je vais regarder en quoi ça consiste et quels sont les protocoles, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et ben, je voulais te poser une toute dernière question, c'est un peu mon sujet du moment, et puis après on va enchaîner. Comment tu gères ton carnet d'entraînement aujourd'hui ? Est-ce que tu suis un peu tes habitudes, tu suis tes entraînements, tu le fais sous quelle forme ?
Mon entraînement au quotidien ?
Ouais.
En fait, depuis 14 ans, cette année, en fait, c'est Philippe Propage, donc mon entraîneur, mon entraîneur adoré, que j'adore. Enfin, c'est plus qu'un entraîneur, c'est vraiment un ami proche qui continue à me faire confiance malgré ces dernières années un peu plus compliquées niveau performance. Mais voilà, donc l'entraînement, c'est lui qui le gère pour moi. On a un fichier un peu classique, hein, je pense comme tous les entraîneurs ont aujourd'hui un fichier en ligne où chacun, on agit chacun de notre côté en live pour mettre à jour l'entraînement. Donc lui, il m'envoie l'entraînement, c'est sous forme de calendrier. Il m'envoie l'entraînement à faire le lundi, le mardi, toute la semaine. Et puis en face, je lui mets l'entraînement que j'ai réalisé, le commentaire sur l'état de forme actuel, le kilométrage, le dénivelé, un peu de monitoring, tout ça.
Et, qu'est-ce que tu appelles le monitoring ?
C'est un petit peu les données cardio, kilométrage, dénivelé, les niveaux de forme, tout ça, ouais.
Ok. Et qu'est-ce que tu notes dans la partie commentaire ?
Après, Philippe, c'est quelqu'un d'assez très simple dans sa façon d'entraîner, très terre à terre, à l'ancienne. C'est l'entraînement à l'ancienne, comme il aime le mettre en avant, et c'est ça que j'aime, moi. C'est un entraînement assez simple, et du coup, moi, au niveau de mes sensations, c'est les commentaires, c'est essentiellement. Là, par exemple, j'ai fait une sortie dimanche de 4 heures, c'était 33 km, 2000 et quelques de dénivelé. Donc voilà, j'ai mis les sensations du moment, que tu es pas mal, avec des tests de ravitaillement précis. Je lui mets tout ça et en fonction de ça, des sensations de l'entraînement, lui il réajuste le lendemain. Donc c'est soit un repos, soit on repart sur un petit footing léger. Donc là, en l'occurrence, cette semaine, c'est plutôt une semaine légère d'assimilation.
Ok. Est-ce que tu as d'autres routines de performance, des choses que tu mets en place régulièrement ?
Des choses qu'il faudrait que je mette en place régulièrement, il y en a beaucoup. Hein.
Mais des choses que tu fais déjà.
Habituellement, pas forcément.
T'as pas le droit de me dire que t'as pas de routine quand même. Entre un passé militaire et une carrière d'athlète de haut niveau, t'as forcément beaucoup, beaucoup de routines.
Ouais, j'ai quelques petites routines. Après. Par exemple, sur une course, sur une compétition, quand je vais sur une course ou au quotidien
Ou tous les jours, tous les jours. Moi, je peux te dire les miennes. Tu vois, par exemple, je note tous les jours ma quantité de sommeil. Tu vois, je note exactement dans un fichier comment je me sens. Je note aussi, effectivement, mon niveau de bonheur et mon niveau d'énergie, tu vois, pour avoir un peu un suivi. Ça, c'est une de mes routines. Dans mes autres routines, j'ai la douche froide. Je prends douche froide tout le temps. Ça, c'est le truc, je pense, qui m'a le plus changé la vie parce que ça te permet... Je mets beaucoup moins le chauffage chez moi. Je produis beaucoup plus efficacement de la chaleur. Je tombe moins malade. Donc ça, je kiffe. Donc j'ai ces deux-là qui ont beaucoup changé. Bon, ça, c'est très axé performance. Après, j'ai dans les autres petites routines... J'écris beaucoup, tu vois, dès qu'il y a un truc qui me tracasse, je l'écris, et ça marche aussi. Mais du coup, ouais, je suis curieux de savoir un peu ce que tu peux mettre en place, toi, autour de ta performance.
Ouais, après, je risque d'en décevoir pas mal. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup moins de routine, par exemple, que toi. Je suis vraiment assez classique. C'est vrai que par exemple, tous mes temps de sommeil, tout ça et tout, je les compte pas. C'est essentiellement, on va dire... Par contre, mon entraînement tous les jours avec Philippe, j'inscris mon entraînement, mon kilométrage, mon dénivelé, mon temps d'entraînement, les sensations du moment.
C'est déjà beaucoup. Hein.
Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 14 ans d'archives, de fichiers d'entraînement. Donc, c'est assez énorme. Des fois, je montre ça à mes collègues. Et ils sont assez intéressés parce que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que des fois, quand on remonte les archives, par exemple 2015-2016, ces belles années où ça avait bien fonctionné, on voit les quelques séances avant les championnats du monde où des fois, j'avais pas forcément des très bonnes sensations. On voit les commentaires que j'avais fait à l'époque. Voilà, et tous ces 14 ans d'archives, c'est assez incroyable. Des fois, j'aime bien y retourner pour m'inspirer, pour voir, comparer un petit peu les chronos que je fais aujourd'hui, les chronos que je faisais avant quand j'étais vraiment très en forme. Ça, c'est hyper intéressant.
Ouais, c'est de la donnée utilisable, hein. Franchement.
Ouais, c'est intéressant. Et puis après, en routine, j'aime beaucoup la musique. Donc voilà, je me suis acheté une bonne enceinte là. Et c'est vrai que des fois, pour me motiver, j'aime bien mettre un gros son dans toute la maison. Donc ça va qu'autour, on n'a pas beaucoup de voisins. On n'est pas en appartement. Parce que je pense qu'il y en a qui gueuleraient, mais. Ouais, je suis très musique et voilà, au fond de moi, ça me donne une bonne énergie, une bonne vibe, c'est cool.
Ok, trop bien. Bon, on arrive aux questions de la fin. La première question que je pose, c'est quoi la phrase que tu te répètes le plus souvent ?
Bon, c'est vraiment d'apprécier chaque moment et vivre chaque jour comme le dernier, ouais. C'est vraiment ça, ouais.
Bah écoute, c'est bien, c'est un très beau mantra en tout cas. Et la toute dernière question que je pose, c'est comme un passage de relais, mais c'est plutôt c'est un passage de micro. C'est de savoir quel est le ou la prochaine invitée que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler de sport, de performance, d'ultra, pour pouvoir aussi digresser. Qu'est-ce que tu me recommandes de dire ?
Sans beaucoup d'hésitation, ouais, la personne, je pense qu'au niveau sport de haut niveau, qui m'a apporté le plus aujourd'hui et auquel je dois beaucoup, et c'est Philippe, ouais. Philippe, mon entraîneur, ouais. Philippe Propage. Ouais.
Ok, eh ben, écoute, je le connais pas du tout, donc ça peut être l'occasion. Merci beaucoup, Sylvain.
Ben, merci à toi, ouais.
J'espère que tu as passé un bon moment.
Et... ouais, c'était top, ouais. Ouais. Je suis pas habitué des aussi longs interviews, mais voilà, puis on a exploré vraiment. Beaucoup de choses de ma vie et auxquelles vraiment j'ai je crois que j'ai même des sujets auxquels j'ai jamais vraiment été abordé sur des interviews, donc voilà, je pense que ouais, ça m'a fait plaisir de partager ça. Je suis quelqu'un qui aime, même si je suis sauvage, quelqu'un de très sauvage, j'aime aussi partager, et voilà, j'aime beaucoup l'humain, ouais.
Bah écoute, merci pour ta transparence et ces anecdotes en tout cas. À bientôt.
Avec plaisir, à bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.